There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Voyager, c'est le nom de ce bot, de cette IA, conçu par un chercheur de NVIDIA pour explorer le monde de Minecraft complètement tout seul, sans assistance humaine. Et vous allez voir, Voyager est très, très doué. Il parvient à effectuer des tâches qu'un humain, ne connaissant pas le jeu, aurait du mal à comprendre aussi vite que lui. Mais après tout, on pourrait se dire, c'est une énième IA, développée dans le cadre d'un jeu, et qui en plus n'est pas utile à nous, en tant que joueurs de Minecraft ou non-joueurs, ça ne va rien nous apporter de l'utiliser dans Minecraft. Mais en fait, le plus intéressant est dans les détails. Pourquoi ? Le plus intéressant se cache dans les détails. Pourquoi Minecraft est si utilisé dans l'entraînement d'IA ? Jusqu'ici, on avait plutôt l'habitude de prendre en exemple le jeu de Go ou les échecs. Et surtout, pourquoi Voyager pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que celles d'un simple jeu comme Minecraft, notamment en robotique. Et on en reparle à la fin de cette chronique. Alors, vous le savez ici à Underscore, ça n'est pas la première fois que Minecraft est utilisé pour tester et entraîner des IA. Microsoft à qui appartient Minecraft, le fait depuis très longtemps avec son projet Malmo, notamment, qui est vraiment un projet de 2016. Hein, donc c'est un vieux projet qui utilisait Minecraft comme support pour des chercheurs en IA, notamment en Reinforcement Learning, en apprentissage réenforcé. Voilà. Donc Microsoft le fait depuis très longtemps. Tiffany l'a fait dans notre émission. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait en utilisant le support de Minecraft et pourquoi tu as utilisé Minecraft à ce moment-là ?
Rapidement, bah, c'était au tout début de GPT. On était sur GPT-3 à l'époque. Il n'y avait pas encore ChatGPT. Et du coup, le projet, c'était de faire générer à GPT des blocs de code, des instructions qui obéissaient à la librairie de Mindflyer, qui est donc une librairie qu'on peut utiliser pour avoir un bot dans le jeu. Et du coup, ben, en fait, quand j'envoyais des messages dans le chat en bas, ça discutait directement avec GPT-3, qui lui ensuite interprétait ce que je disais pour générer le code qui faisait exécuter au bot une action, donc soit répondre à une question, soit faire une action ou un truc comme ça. Et ouais, mais à cette époque-là,
ça paraît simple maintenant.
Faut qu'on se remette dans le contexte. À cette époque-là, c'était fou même pour moi. Alors j'avais bossé dessus parce que en fait, peut-être ce qu'on n'a pas assez expliqué à ce moment-là. C'est que moi, je ne contrôle pas ce que GPT-3 renvoie comme réponse. Donc en fait, il y a plein de fois où j'ai testé les mêmes phrases, mais ça m'a jamais rendu la... Enfin, ça n'a jamais eu le même comportement. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Donc en fait, le fait que ça marche en ligne avec vous ou en live sur Twitch, moi, j'étais hallucinée, quoi.
Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a 2 ans et demi, c'est justement la première fois qu'on recevait Tiffany sur l'émission et on a testé cette démo Minecraft de la génération de code par IA et on a tous été hallucinés au moment où on lui demande un item dans son coffre. Ouais. Il interprète le truc correctement et il nous le renvoie. Enfin, on était complètement hallucinés comme si une barrière venait de sauter entre eux.
En live en plus.
Et le code en live.
Parce que la même situation ne se serait pas reproduite à l'identique si ça n'avait pas été en live. Donc,
voilà, à l'époque, c'était complètement fou. Et surtout, la techno existait, mais le fait de la voir se matérialiser dans un monde virtuel comme Minecraft, c'est ça pour moi qui était le plus fascinant.
Ouais.
Et puis à cette époque-là, comme on n'avait pas ChatGPT, on n'avait que le Playground. Je ne sais pas si vous vous rappeliez à l'époque. Donc en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient utilisé et ce n'était pas encore assez user-friendly pour que les gens comprennent qu'on pouvait faire avec GPT-3. Donc c'est pour ça que c'était, ouais, c'était très cool comme démo.
Et en fait, ce que tu as présenté il y a maintenant plus de deux ans et demi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu en fait de la suite qu'ont fait certains chercheurs de NVIDIA. Tu me diras ce que tu en penses, mais tu vas voir, c'est incroyable. Donc Tiffany a utilisé Minecraft comme support pour ses recherches et pour ses démonstrations d'IA. Plus récemment, un dernier exemple avant de vous parler de Voyager, OpenAI a utilisé Minecraft pour entraîner une IA à l'aide de vidéos. En fait, c'était l'IA apprenait de gameplay fait par des humains, pour le coup. Et l'IA était capable, le but de l'IA, c'était qu'elle devait devenir capable de reproduire des comportements similaires dans le jeu. Donc apprendre de gameplay humain, voir un peu ce qu'ils font comme action et essayer de reproduire à l'identique. C'est ce qu'ils appellent la méthode VPT, donc pour vidéo pré-training. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est encore un exemple en plus que Minecraft est vraiment beaucoup utilisé par les chercheurs d'IA du monde entier. L'IA qui nous intéresse aujourd'hui et qui prend vie dans Minecraft, je le dis, elle s'appelle Voyager. Et elle est très spéciale. Selon moi, elle est encore plus impressionnante que ce dont on vient de parler à l'instant. Ça n'est pas une nouvelle méthode pour collecter un max de données et se construire un immense dataset, ou bien pour, je ne sais pas, entraîner une IA à la reconnaissance d'images. Pas du tout. D'ailleurs, Voyager ne possède pas de capacité de vision. Donc Voyager, considérez maintenant Voyager comme quelqu'un d'aveugle qui n'a pas d'yeux, il n'a aucune capacité de vision. Non, Voyager a pour unique but, et c'est la seule instruction qu'on lui donne au début, d'explorer au maximum Minecraft. Et c'est tout. On lui dit ça, et elle se démerde. Maintenant que je vous ai dit ça, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne.
Oh, ça marche.
Et est-ce qu'elle fonctionne bien ? Alors justement, pour évaluer si Voyager fonctionne bien, comment ont fait les chercheurs qui ont mis au point Voyager ? En fait, les chercheurs vont observer combien d'items uniques Voyager est capable de découvrir. Dans Voyager, dans Minecraft, pardon, il y a un arbre des technologies que vous connaissez peut-être, avec le bois, le fer, le diamant. Je ne suis pas un spécialiste de Minecraft, dites-moi si je vous dis des bêtises, mais il y a tout un arbre de technologies qui est disponible. Et on va regarder combien d'items uniques Voyager est capable d'amasser, et surtout en combien d'itérations. Pourquoi ça ? C'est pour savoir si, en gros, elle galère, si elle a besoin de recommencer beaucoup, ou si plutôt elle est fast et elle apprend très très vite.
Oui, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est que on se dit une IA qui doit résoudre un jeu vidéo, c'est relativement classique. On a vu plein d'IA qui finissent de jouer à Mario Bros, par exemple, ou à des jeux de voiture. Donc là, il ne semble pas qu'il y ait de difficultés, mais c'est vrai que là, tu me dis Minecraft, mais il n'y a pas de but à Minecraft. Genre, même moi, quand tu commences le jeu, tu es un peu perdu. Ce qui est l'inverse, si je me souviens bien, c'est l'inverse de ce qu'il faut pour des IA, où elles ont besoin d'avoir un but super précis, quantifiable. Là, même si un humain ne sait pas où aller, sauf en regardant les tutos de Fanta, ne sait pas où aller en ouvrant Minecraft, j'imagine que c'est ça l'intérêt aussi d'essayer de battre le jeu.
C'est l'intérêt d'utiliser Minecraft, c'est que de un, c'est un jeu infini, qui est où la découverte ne s'arrête jamais, on peut toujours continuer à faire quelque chose dans Minecraft, et de deux, il n'y a pas de scénario précis à ce jeu. Ce qui est très rare dans le jeu vidéo, c'est pour ça que Minecraft est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de scénario prédéfini que le bot pourrait suivre. On lui dit juste, hop là, voici dans Minecraft. Il pourrait très bien rester à l'âge de pierre tout du long. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de savoir jusqu'où il est arrivé. Et on va voir jusqu'où il est arrivé, mais c'est ça qui est assez impressionnant dans Minecraft. Alors dit comme ça, ça paraît assez simple de dire voilà, on met un bot dans Minecraft et puis il se démerde. Mais en réalité, ce qui nous intéresse nous de savoir, c'est comment ça marche, comment ça fonctionne derrière. Surtout que, je le rappelle, Voyager ne perçoit rien. Voyager n'a pas d'yeux. Alors en version très simple, ils ont fait un peu comme toi, Tiffany. Ils ont connecté GPT-4, parce que du coup, GPT-4 était sorti entre-temps, à Voyager. Ils ont fait un lien entre le bot donc, qui joue à Minecraft tout seul dans son coin et GPT-4. Ça, c'est la version très simple que vous pourrez raconter ce soir au dîner. Maintenant, on va faire la version un peu plus approfondie sur comment ça marche véritablement. En fait, ils utilisent... Pardon. En fait, ils utilisent une méthode qu'ils appellent Coding as Action. Et la première étape, c'est qu'ils utilisent une API en JavaScript de Minecraft, qui est pour le coup existante et faite par la communauté. Je ne sais pas si c'est celle que tu avais utilisée ou pas.
Si, c'était la
Je pense que c'est la même.
Ouais. Exactement.
Et en fait, elle a pour but de convertir le monde 3D que nous, on voit dans Minecraft en texte. Parce que je le rappelle, Voyager n'a pas de vision, donc c'est une première étape importante. Grâce à ça, en fait, Voyager va envoyer à GPT-4, à un instant T, déjà, un, ce qu'il y a dans son inventaire. Si vous connaissez Minecraft, ben voilà, il y a un inventaire avec toutes les ressources qu'on a accumulées. Ce qu'il y a autour de lui, dans son environnement. Et aussi un peu ses constantes de santé. C'est comment il va dans le jeu. C'est les trois choses qu'il envoie à GPT-4. Et il l'envoie un peu de façon formatée. Donc ça ressemble un peu à du JSON, si vous voulez. C'est pour qu'en fait, à chaque fois, ça soit sous le même format, sinon ça serait un peu galère.
Et donc là, juste pour préciser, quand tu dis envoyer, c'est littéralement ce que vous voyez. Il y a les lignes écrites comme ça, en mode,
exactement.
Tu as des planches de bois et de la pierre, etc. Ce qui lui donne une idée, à peu près un résumé de ce qui se passe dans le jeu, comme si tu parlais avec ton pote qui avait les yeux bandés, en fait.
Exactement. Ce qu'il y a à gauche, c'est ce que Voyager envoie à GPT-4. Et à partir de ces éléments, vous le voyez là à l'écran, GPT-4 analyse la situation à un instant T, qu'est-ce que fait Voyager, et il va proposer une tâche, un objectif à atteindre pour Voyager. Je prends un exemple, tu m'envoies que tu as faim, ta jauge de faim est très, très élevée, ou ta santé est très basse, comme vous voulez, tu as un cochon à côté de toi, tu m'as dit, tente de tuer le cochon. C'est vraiment, ça c'est le raisonnement de GPT-4. Donc la première ligne, c'est raisonnement, et si on regarde la ligne suivante, c'est tâche, tue le cochon.
Donc ok.
La première, c'est okay. Il réfléchit, il prend le temps. Ouais, bah, t'allais dire ?
Non, mais pardon.
Et bah, la première étape, c'est il prend le temps de réfléchir, il fait son raisonnement, et la deuxième étape, il propose une action concrète à Voyager, et Voyager, via l'API qui est utilisée, va effectuer l'action. Ouais.
Et du coup, il y a vraiment pas, en dehors du JSON, avec toutes les infos du jeu, il n'y a pas de contexte sur ce qu'est Minecraft.
Alors moi, le seul contexte que j'ai vu, c'est vraiment explore, ta mission est d'explorer Minecraft,
okay.
Et d'amasser le plus d'items uniques disponibles.
Ok, ça, il sait qui doit faire
en fait,
ça.
Je crois que
c'est deux objectifs.
Okay.
Et en fait, je crois que c'est justement pour ça qu'ils utilisent Minecraft.
Ouais.
Parce qu'ils tirent parti du fait que dans le dataset de GPT-4, il existe toute la documentation et tous les wikis du jeu Minecraft.
Ouais.
Puisque c'est un des jeux les plus populaires au monde, et donc les plus discutés, les plus documentés, il n'y a pas besoin de fournir à GPT-4 les règles du jeu, puisqu'il les connaît en fait déjà.
Et en fait, c'est aussi le but de ne pas envoyer les règles du jeu, c'est pour vraiment... c'est un bac à sable, quoi. C'est vraiment...
Ouais.
Le but était vraiment démerde-toi. Mais là où c'est pas des gros feignants, les chercheurs, c'est qu'ils ont mis en place... Et on va en parler juste après, un système pour que Voyager fonctionne le mieux possible.
Moi, j'ai une petite question, tu me dis si ça te coupe, mais là, GPT-4, il répond avec « tue le cochon ». Mais c'est hyper high level, c'est hyper haut niveau comme objectif. Genre,
comment il sait Voyager ?
Moi, tu me dis « tue le cochon », et j'ai jamais touché au jeu. Je ne sais pas quelle est la suite de touches à appuyer pour aller tuer le cochon.
Alors, il envoie du code, en fait.
Ok.
En fait, tout ça, et il y a une partie interprétation en texte, mais tout ce qu'il envoie à Voyager, il l'envoie en forme de code, comme le code que Voyager a envoyé à GPT-4.
Donc, ouais. Typiquement, on peut imaginer que tuer le cochon, en fait, c'est dirige-toi ouais. vers le cochon quand tu es dans la range, ouais. Tape avec ton épée, tu vois.
Complètement. Ça, pour le coup, c'est pas une prouesse technique, parce qu'en fait, il envoie pas la phrase tue le cochon, il envoie le code qui va permettre...
Si, c'est une prouesse technique en vrai. J'insiste parce qu'en fait, tuer le cochon, rien que ça, en fait, ça nécessite énormément de lignes de code. Dans Minecraft, pour le coup, moi, j'ai bien décortiqué. et en vrai, c'est balèze. Donc, s'il arrive à renvoyer toutes les instructions bien comme il faut et que ça exécute vraiment le code, c'est incroyable, sans erreur.
Ce qui est très probable, c'est que aussi entre toi et le moment où tu as fait ces tests, et eux, il y a littéralement deux itérations de GPT.
Ouais.
Et à mon avis, entre GPT 3.5 puis GPT 4, les capacités de produire du code valide ont explosé.
Ouais.
Et donc, ça doit leur permettre de aussi gagner du temps là-dessus.
Et je reparle dans vraiment une minute. En fait, il y a un système aussi de correction d'erreurs dont je vous parle juste après, qui là, parce que là pour l'instant on est plutôt sur la base. Juste je prends un autre exemple pour si jamais c'était pas très clair dans la VDOD. Par exemple, une situation où Voyager a une pioche en bois et il a quelques pierres dans son inventaire. Et donc du coup, le raisonnement de GPT-4, ça va être peut-être qu'on peut essayer de tenter de faire une pioche en pierre pour être plus efficace. Et donc du coup, il va lui dire de fabriquer une pioche en pierre. Une pioche en pierre, oui, c'est rigolo à dire. Ça, c'est la base. Mais en fait, il y a d'autres agents autonomes dans Minecraft qui sont capables de faire ça. Ce n'est pas la spécificité de Voyager. Ça, c'est pour vous expliquer la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape d'auto-vérification. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir corriger des erreurs. En fait, Voyager a un mécanisme de vérification et d'itération. C'est-à-dire que Voyager peut faire des erreurs. Il va faire des choses qui ne marchent pas. Mais il va apprendre de ses erreurs pour plus les faire. Je prends un exemple. Voyager fait une action. Enfin, ce n'est pas un exemple, c'est plutôt comment il fonctionne. Voyager fait une action et il observe les conséquences, les feedbacks dans son environnement. Dans son environnement ou aussi sur lui-même. Par exemple, s'il n'a pas tué le cochon, il va toujours avoir faim. Il va bien constater que
s'il n'a pas réussi... Si je ne fais rien, j'ai faim.
Voilà. Et si il essaye de tuer le cochon, mais que le retour, c'est qu'il a toujours faim et qu'il n'a toujours pas mangé de cochon, a priori, il y a un problème. Et en fait, il a comme ça les erreurs de son environnement, les erreurs de sa situation n'a pas évolué, aussi potentiellement les erreurs de l'API JavaScript. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, s'il y a des erreurs, il le renvoie à GPT-4 dans une boucle. GPT-4 lui dit comment faire ? Et il va lui proposer une action corrective. Par exemple, les chercheurs ont explicité un exemple de ça pour bien qu'on comprenne comment il fait de la correction d'erreur. À un moment, GPT-4 a proposé à Voyager de créer une hache en acacia. Sauf que les connaisseurs de Minecraft le savent sans doute bien mieux que moi. Ce n'est pas possible de faire une hache en acacia, et c'est plutôt logique. Ça n'a pas de sens, une hache en acacia. Et en fait,
c'est vrai, oui.
Voyager s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Il n'avait toujours pas de hache en acacia dans son inventaire. Donc du coup, il y a une boucle d'auto-vérification, de self-verification, je crois qu'ils appellent ça en anglais. Et du coup, GPT-4 lui a dit, fais une hache en bois, ça ira très bien. Et en fait, cette étape qui, pour nous humains, nous paraît tout à fait anodine, en fait, c'est l'une des premières grandes intelligences, intelligence au sens informatique du terme, très importante dans le fait que Voyager est particulièrement capable d'avancer loin dans le jeu.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape et la dernière étape, c'est qu'une fois qu'il a appris, qu'il a découvert une nouvelle compétence mature, par exemple, faire une pioche en fer, ça existe,
ouais.
Ce que je dis, ok. Faire une pioche en fer, Voyager, il a un mécanisme pour la stocker dans une bibliothèque. Sur l'image, ils appellent ça la skill library. Donc, dans une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il se construit une mémoire persistante, mais qui garde à tout jamais tant qu'il est encore en vie. Et qui fonctionne un peu comme un dépôt de code auquel un LLM GPT-4 aurait accès, en fait.
Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé par toute la galère d'essayer de savoir comment on crée une pioche en fer...
Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Il y a eu une erreur, attends, je recommence. Ah, c'est bon, là, ce bout de code, il est valide. En fait, ce bout de code, il le stocke dans une bibliothèque de compétences, c'est ça ?
Exactement. Et il se construit comme ça, une bibliothèque de compétences. Parce que je rappelle, son but, et pour le coup, ça, c'était dit dans le pré-prompt, c'est remplir cette bibliothèque de compétences au maximum. Et donc ça, c'est le troisième élément super important que d'autres agents n'ont pas. Et on va le voir juste après. Ça a une importance capitale sur est-ce qu'il arrive à aller loin dans l'arbre technologique de Minecraft ou pas. C'est qu'il se crée une bibliothèque, c'est-à-dire une mémoire persistante des comportements, des compétences plutôt, qu'il acquiert. Et on va le voir, ça marche super bien. Regardez ce graphique. C'est le graphique de l'arbre technologique de Minecraft. Et c'est comment les différents agents sont parvenus à parcourir l'arbre technologique de Minecraft. Voyager est tout en haut.
Et si vous voyez, satisfaisant ce graphe.
C'est super satisfaisant. Et si vous voyez bien, Voyager est, d'après les chercheurs le premier agent à avoir atteint le diamant, l'épée en diamant. Et je sais pas vous, mais moi je crois que j'ai dû jouer dans ma vie une ou deux fois max à Minecraft.
T'as pas dû avoir d'épée en diamant à mon avis.
Je n'ai jamais eu d'épée en diamant. Donc c'est-à-dire que Voyager, je suis pas bon à Minecraft, hein, mais Voyager est bien meilleur que moi à Minecraft.
C'est ça, pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais joué à Minecraft, c'est que quand même, entre les petits exemples que là on a donné en mode récolter deux trucs en bois et créer une pioche en bois et obtenir des outils en diamant, il y a un gap. Il faut vraiment comprendre que la complexité augmente quand même. Il faut des heures de jeu, il faut limite que quelqu'un vous apprenne certaines techniques ou que vous...
Chercher sur Internet.
Exactement, sur YouTube, et c'est pas pour rien que Minecraft marche autant sur YouTube, c'est qu'il y a vraiment une complexité intrinsèque au jeu, ça fait partie du jeu, le fait qu'il y a besoin de fouiller, de galérer, de quasiment de créativité en fait pour débloquer des choses.
Ouais, mais en plus là, en bas c'est pas le temps, c'est le nombre d'itérations.
Non, c'est le nombre d'itérations.
Et donc, mais est-ce que entre chaque itération, il a le temps de jouer quand même, le bot? Parce que tu vois, pour avoir parce que j'ai beaucoup joué moi pour le coup. Alors, j'aimerais bien savoir comment ça se transcrit en termes de temps absolu, le fait d'avoir l'épée en diamant.
Ça, j'avoue, ils n'ont pas dit le temps, ou alors j'ai pas vu l'info.
Parce qu'il faut aller le miner, le diamant. Hein.
Ah bah, c'est ça. La première fois que tu trouves un diamant, t'es content. Tu fais la fête, quoi.
Mais
à mon avis, eux, ils ont dû faire 100 fois plus la fête parce que c'était pour un papier. Mais...
Non, mais c'est super long. Et si on remet le schéma, ce qui est intéressant, c'est celle qui était juste en dessous, donc on peut se dire pas si loin. En fait, c'est toujours Voyager, sans la bibliothèque. Donc vraiment, en fait, les autres, ils sont vachement plus en dessous, quoi.
Et donc, ça permet de comprendre qu'il y a une sorte de plateau. Que le fait d'avoir cette bibliothèque de compétences, ça a vraiment débloqué quelque chose, quoi. Ça lui a permis, en fait,
ça a débloqué un plateau de verre.
C'est comme si toi, tu t'apprenais jamais et tu faisais constamment les mêmes erreurs, entre guillemets.
Ouais.
Tu aurais un plateau, quoi.
En fait, j'ai l'impression que c'est, on dirait, du reinforcement learning à la sauce generative AI, quoi. Si je peux expliquer mon propos, c'est le fait d'avoir mis la skill library, ça donne un objectif et du coup c'est un peu comme du reinforcement learning mais en pas hardcodé, parce que le reinforcement learning c'est un peu hardcodé à la base. Peut-être tu donnes un bon point quand le joueur, enfin je sais pas, l'avatar dans ton jeu, il a fait un truc où il a gagné quelque chose et puis il perd quand il meurt par exemple. Et donc c'est comme ça que l'IA arrive à inférer des règles dans le jeu qui fait qu'elle apprend à jouer à un jeu vidéo. Ça c'est dans le reinforcement learning. Là ici, le fait de donner le skill library, c'est un peu comme lui dire voilà ton objectif, c'est là où c'est plus sain pour toi ou c'est moins sain quand tu n'y arrives pas. Tu vois. Ouais. Donc en fait c'est pour ça que ça accélère, je pense, la rapidité avec laquelle cette IA-là, elle apprend.
C'est comme si on lui, au lieu de lui dire joue juste à Minecraft.
Ouais, joue au jeu.
On lui dit joue à Minecraft.
Avec un objectif.
Et c'est ça. Et joue à Minecraft. Et pour info, plus tu t'apprends à faire des trucs différents, mieux c'est, quoi.
Ouais, exactement.
Ça c'est vraiment.
Et du coup, bam.
Ouais. Et du coup, bam, ça donne ça. Ce qui est incroyable parce que je n'arriverai jamais à atteindre de ma vie ce qu'a réussi à faire Voyager. J'ai pas ce temps.
Mais si tu l'as ce temps, Mathieu, il faudrait qu'on ait un serveur Minecraft avec toute la micro.
Oh là là, très mauvaise idée. C'est un projet annulé. Non, et alors on peut peut-être juste pour Tiffany, je sens que ça va intéresser Tiffany, c'est le nombre d'itérations. Ils ont détaillé un peu dans des petits graphiques le nombre d'itérations que met Voyager par rapport aux autres. Et on voit qu'en fait, il fait beaucoup moins d'essais-erreurs que les autres agents. Donc vraiment, il est bien plus capable. Mais ce n'est pas très important. C'est pas grave.
On n'a pas l'image.
Bref, en gros, Voyager est trop fort. Alors que je rappelle, il n'utilise pas d'informations visuelles dans le jeu. Et d'ailleurs, les chercheurs ont fait l'hypothèse que si un jour, ils y parviennent à utiliser un peu de la vision en fait, dans le jeu, ça pourrait décupler encore plus... Voyager, et peut-être qu'il serait capable de, entre guillemets, finir le jeu, c'est-à-dire d'aller au dragon.
Dans le nether.
Buter le dragon dans le
nether.
Et en fait, surtout, ce qui est incroyable, c'est que Voyager est trop fort sans avoir fine-tuné de modèle, sans avoir modifié les paramètres d'un modèle en particulier. On n'a pas pris un modèle et on ne l'a pas façonné en disant tu vas être une IA spécialisée dans Minecraft. Alors certes, on lui a donné des objectifs précis, on lui a donné quelques... quelques billes, quelques infos contextuelles, mais ils précisent bien qu'ils n'ont pas modifié les paramètres d'un modèle, et pour cause, ils ont utilisé GPT-4. Et on y reviendra juste après, mais c'est au final ce qui est le plus intéressant dans cette histoire. Mais alors, pour revenir à notre question, pourquoi utiliser Minecraft pour les recherches en IA de partout depuis plusieurs années ? Parce qu'il y a encore quelques années, dans les années 2010-2015, pour repousser les limites de l'informatique classique aussi, algorithmique, on avait plutôt l'habitude de voir des challenges sur le jeu de Go, notamment avec AlphaGo qui a battu un professionnel du jeu en 2015, ou avec les échecs, notamment AlphaZero ou Stockfish, qui est un moteur open source pour résoudre les échecs. Bref, on a plutôt l'habitude de jeux d'apparence très logique. Mais du coup, pourquoi maintenant on utilise Minecraft, notamment pour les IA ? C'est d'abord une question que je voulais poser à toi, la première concernée, Tiffany. Pourquoi utiliser Minecraft ?
On a eu partiellement un début de réponse avec ce que tu disais plus tôt, Michael, mais rien que le fait que ce soit un open world, donc un monde complètement ouvert avec des possibilités complètement infinies, sans scénario tout tracé, ça fait que, comme tu l'as dit, c'est un playground, quoi. L'intelligence artificielle, elle peut un peu faire ce qu'elle veut. Et ce qui est très beau avec Minecraft, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de limite dans ce que tu peux créer, quoi. Tu peux aller vraiment... Tu peux faire tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu peux potentiellement imaginer dans le jeu, ça peut arriver. Et en fait, la seule contrainte, c'est la physique du jeu. Et donc, c'est très intéressant de voir comment une intelligence artificielle peut arriver à casser cette barrière de la créativité pour arriver à ne serait-ce que comprendre le jeu, mais ensuite créer des choses, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très, très cool d'utiliser. Et en plus de ça, Minecraft, le jeu en soi, il y a plein de librairies que tu peux plugger à ça. Il y a plein de code qui est open source, qui est disponible à tout le monde. En fait, n'importe qui creuse un petit peu le sujet peut arriver à hoster son propre serveur en local et arriver à plugger son code dessus. Dès que tu arrives à faire ça, en fait, t'as un peu unlock le god mode du jeu et puis tu peux commencer à développer directement dans le jeu. C'est assez incroyable.
Parce qu'en fait, si on tente une analogie potentiellement foireuse, mais est-ce qu'on peut... Minecraft, d'une certaine manière, c'est une approximation ultra simplifiée du monde réel.
Ouais.
Tout ce qu'on voit dans ce genre de papier, on ne rêverait même pas et que des robots en soient capables dans le vrai monde. Là, vous ne vous dites pas que demain, un robot de Boston Dynamics, il peut aller miner du charbon et forger une épée, tu vois. Et donc... C'est un peu un bac à sable beaucoup plus simplifié qui permet, j'imagine, à la recherche de commencer à explorer ce qui... Ça veut dire quoi, en fait, des IA qui sont capables de créativité et qui sont pas forcément guidées par des objectifs super tangibles et super mesurables. Ce que nous, humains, on fait tout le temps. Parce qu'en fait, on est très, très souvent, on est motivés par des objectifs qui sont très lointains, très... très abstrait, en fait, de très haut niveau, si on pouvait dire, et pas simplement à maximiser une métrique comme le nombre de calories ou je sais pas. Et donc c'est la meilleure, comme tu disais, c'est potentiellement la meilleure approximation qu'on ait, qui est suffisamment simple pour que des modèles existants puissent faire joujou dedans, quoi.
En fait, j'ai allé même encore un peu plus loin, parce que, alors, c'est simple comme ça, Minecraft, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut aller vraiment très, très, très loin.
Les tâches sont de plus en plus complexes.
Ouais, parce qu'il y a un truc dans le jeu qui s'appelle les switches, et du coup, tu peux... tu peux... avec des circuits et des redstone, et voilà, je vais rentrer un peu dans le technique, mais en vrai, tu peux recréer de la logique.
Tu peux recréer un ordinateur dans Minecraft,
tu peux recréer une calculatrice. En fait, rien qu'avec tes circuits de 0 et de 1, tu peux il y en a même qui sont allés super loin, ils ont reprogrammé Minecraft dans Minecraft. En fait, on peut aller vraiment très loin, et je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est une approximation du monde simpliste, mais en fait...
Qu'il n'y a pas une limite.
Ouais.
Qu'il n'y a pas une limite basse.
Exactement. Tu peux aller très très loin à partir de ce monde très simplifié. C'est assez fou. Et je pense que les IA n'auront pas de limite potentiellement dans ce qu'elles pourront créer dans ce jeu, quoi.
Et là où vous voyez juste sur le côté, c'est une approximation un peu du monde réel et du monde physique, c'est que ce que fait Voyager, les chercheurs ont décidé d'appeler ça le lifelong learning. Donc un petit peu l'apprentissage de la vie avec un LLM. Et c'est ce que je vous disais, c'est exactement ça qui est le plus intéressant, parce que fondamentalement, on s'en fout de Voyager. Le plus intéressant, c'est ce vers quoi il pourrait nous emmener. Alors, avec son système de tâches et d'auto-vérification dont on a parlé, ça montre l'énorme potentiel que vont avoir les modèles de langage pour effectuer des actions utiles sur nos ordinateurs. On en a déjà un peu parlé, au moment où on a parlé de Rabbit, donc c'était cet assistant, on a parlé de modèle d'action. Et c'est également ce que tente de faire une autre start-up, alors j'ai choisi de vous parler de celle-là, mais il y en a différentes, qui s'appelle Adept. C'est une start-up cofondée par un ancien de OpenAI et de Google, comme souvent. Et en fait, eux, ils mettent au point un modèle d'action qui s'appelle Act One. Et c'est exactement pour ça, pour automatiser certaines tâches. Alors pour l'instant, ils montrent des exemples pour réserver un vol ou pour transformer un tableau. Voilà, donc tu peux lancer la vidéo pour transformer un tableau en graphique. C'est pas là actuellement, on se dit pas ça va
changer ma vie
actuellement. Mais honnêtement, ça pourrait avoir de très gros impacts sur nos façons de travailler si évidemment ces modèles commencent à prendre un peu forme, comme ce qui s'est passé avec les modèles de langage. Au début, GPT-1 et GPT-2, c'était pas fou. Là, on commence à avoir les premiers modèles d'action et on va voir ce que ça va devenir. Mais sachez que derrière ces modèles d'action, il y a de la logique qui a été utilisée dans Minecraft. Et donc, Minecraft a indirectement contribué à ça. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus loin que ces histoires de modèles d'action dont on a déjà un peu parlé dans l'émission. C'est de voir un petit peu plus loin, notamment du côté du chercheur de NVIDIA qui est, avec son équipe, à l'origine de Voyager, donc qui a développé Voyager. Il s'appelle Jim Fan. C'est quelqu'un que je vous encourage à suivre sur Twitter et qui est très intéressant. En fait, pour lui, Voyager, c'est qu'une étape dans l'évolution des agents autonomes d'intelligence artificielle. Et selon ses propres dires, la prochaine révolution de l'IA, c'est les agents autonomes, bien qu'elles prennent un peu son temps. Je cite encore Jim Fan. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand il dit agent, il pense évidemment au monde virtuel, comme on l'a vu dans Minecraft, mais lui, il pense aussi, comme ce que tu disais, au monde réel. Parce qu'à côté de mettre en place une IA capable d'apprendre à évoluer tout seul, juste au contact de son environnement, il a mené d'autres travaux, notamment avec des robots. Il a entraîné des modèles pour que des robots puissent répéter 10 000 fois le même geste. Par exemple, ouvrir une porte. Et 10 000 fois avec des situations et des comportements différents. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a envie que, de sorte que la 10 000e et une fois, le robot, s'il ne connaît pas exactement la porte, il soit, enfin, la typologie de porte, qu'il soit dans des situations différentes, il soit quand même capable de l'ouvrir. Et pour faire ça, je peux très brièvement parler de deux projets. Le premier projet, c'est Metamorph, auquel il a participé. En fait, c'est un modèle de fondation pour contrôler des milliers de robots et qui sache, par exemple, monter dans des escaliers, traverser dans un champ. Et en fait, ça va simuler un peu la physique humaine des bras, des jambes, etc., pour l'appliquer à des robots. Il y a un autre projet super intéressant où il apprend à une structure humaine. Il apprend en 3 jours à maîtriser 10 ans d'arts martiaux. Et quand, par exemple, vous allez voir, c'est super impressionnant. Ça permet de faire des personnages vachement plus réalistes dans les jeux vidéo. Ah. Et c'est vraiment... C'est fou. Genre là, vraiment, on a...
Ouais.
Et ça, c'est des recherches aussi auxquelles il a participé. Et qui pourront se retrouver dans des robots.
Ouais, je suis d'accord qu'en fait, honnêtement, il faut se concentrer un peu. Mais et tu vois quand même la l'inertie qui est un peu mieux, qui ressemble plus à ce qui se passerait dans la vraie vie. Ouais.
Peut-être tu peux remettre le moment où il tape un poteau. Moi, c'est là où j'ai été convaincu personnellement. Donc je veux voir si...
Déjà, les coups de pied, moi j'ai trouvé ça très cool.
Ouais, les coups de pied.
Une sorte d'inertie qui prend un peu de temps à arriver au niveau du torse et de la tête et que tu verrais, je pense pas, dans un jeu.
Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je peux... Ah, ici, c'est là. Ah, je sais pas si c'est là. Ah, si, c'est là.
Lui, c'est le vrai. Ah.
Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très réaliste, quoi. Mais bref. Et concrètement, ça donne lieu à des robots aussi fous que ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, qui sont vraiment capables de se déplacer quasiment comme des humains. Alors là, ils ont des roues, mais moi, je trouve ça encore plus impressionnant. Vous allez voir, voilà.
Oh.
Genre.
On est d'accord, ils sont pas vraiment faits, conçus pour se balader comme ça, si ?
Bah si, je crois.
Pourquoi il a des roues ? Pourquoi il a des roues sur les mains ?
En fait, c'est des trucs à quatre roues, mais qui sont capables de se lever.
Oui, ah oui, d'accord, c'est ça.
Voilà.
Ok, si, dans le, okay, le côté...
C'est quand même fou.
Si, si, c'est quand même... En fait, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est de savoir, tu vois, entre, on a vu du Boston Dynamics ou des choses comme ça.
Ouais.
C'est de savoir, si on vient de franchir... Enfin, quelles barrières ont été franchies, tu vois, entre ça et quelqu'un qui marche.
Justement, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça paraît très loin de notre histoire de Voyager. Ça nous paraît très loin de Minecraft et de Voyager. Et en fait, Jim Fan, donc c'est un ponte de l'IA chez NVIDIA, il a une vision. Celle, un jour, d'avoir des IA aussi complètes que ce que pourrait faire un Wall-E ou un... Il cite aussi les robots dans Star Wars. Et en fait, pour ça, il a rassemblé ces différentes briques, donc la première que je vous ai présentée en long aujourd'hui, Voyager, et puis deux autres sur lesquelles je me suis pas attardé, vous allez pouvoir le voir sur le schéma que va vous afficher-t-il dans 3, 2... non, mais en plus, il faut qu'il retrouve le schéma dans un endroit précis d'une vidéo qui n'est pas une vidéo YouTube. Là, donc en vrai, là il est actuellement il est en PLS, mais vous allez voir un schéma où en fait Voyager est une brique de ce qu'il compte développer très bientôt. C'est un modèle de fondation pour les robots. Et c'est le projet Groot, dont Jim Fan a la charge depuis mars dernier. Ça a été annoncé dans la dernière conférence de NVIDIA. Et en fait, son projet, c'est que quel que soit le robot autonome, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, quel que soit le cas d'usage, tous les robots utilisent le même modèle fondamental, le même modèle de fondation. Ça, c'est le schéma dont je vous parlais. Donc voilà, on voit Metamorph, dont je vous ai très, très rapidement parlé, un autre qui s'appelle Isaac Sim, qui est très impressionnant aussi, et Voyager, et donc il a son petit graphique. Et son but, c'est d'arriver à un modèle de fondation pour les robots. Et en fait, à l'image d'un modèle de langage, le cas particulier d'un robot, c'est que le cas particulier d'un robot soit juste un prompt différent. Comme si nous, on utilise un modèle de langage, parfois on va lui demander une recette de cuisine, et parfois on va lui demander de nous résumer un texte. Et bien là, son ambition, c'est de faire la même chose, de prendre autant de hauteur de vue pour faire un modèle de fondation qui marcherait avec tous les robots.
Donc tout comme les nouvelles sorties récentes des grands modèles de langage ont rendu un peu obsolètes tous les super modèles hyper spécifiques qui permettaient de faire du NLP pour comprendre le sentiment dans une phrase, tout ça a un peu disparu en faveur de gros modèles généralistes.
Ouais.
Bah, il pourrait se passer la même chose dans la robotique où un gros modèle aurait une compréhension du monde un peu globale et on pourrait lui dire, bon ok, bah, ouvre
c'est
la
ça.
Porte.
Et en fait, il aimerait qu'il soit possible de faire apprendre. Il aimerait que ce qui est possible de faire apprendre à Voyager virtuellement dans Minecraft, il puisse le faire dans le monde réel, non plus du coup avec des instructions, avec du code, mais avec des instructions qui agissent sur des actionneurs, sur des moteurs, et donc qui contrôlent des robots.
En gros, le tue le cochon, il faut le.
Ouvre la porte.
Faut, exactement.
Exactement.
Faut que ça marche aussi avec ouvre la porte dans la vraie vie, quoi.
Et remplis ton skills de library, c'est collecte le plus d'objets différents, je ne sais pas.
Exactement. Et on se rappelle que le responsable en chef de ce projet qui s'appelle Groot est à l'origine de Voyager.
Oui, c'est okay. La même. Oui, oui.
Et donc, moi, ce qui me tue, c'est qu'en gros, aujourd'hui, Minecraft sert à entraîner des robots humanoïdes pour plus tard.
Si on fait,
si on fait le chemin raccourci comme ça, là.
C'est littéralement, en tout cas, lui, en termes de recherche, ce qu'il a vécu, ouais. C'est dingue.
C'est une brique, ouais.
C'est une des briques, évidemment. Il y en a plein d'autres, et le schéma qui nous montre est une version simplifiée. Mais c'est une des briques pour percevoir son environnement et évoluer de façon seule. Et j'ai pas la fin de cette phrase.
Super cool.
Il y a quand même un problème.
Dis-moi.
Il y a comme, sans vouloir plomber l'ambiance, les démonstrations magnifiques que vous avez vues actuellement dans Minecraft, qui arrive à explorer le monde, etc., ont quand même une limite fondamentale, c'est qu'elles marchent avec des LLM, ou plus précisément des modèles de, langage autorégressif.
Comme ça,
j'apprends mes connaissances de ce matin. Et ce matin, il se trouve qu'on était à une conférence bêta de Yann Lequin, et où justement on a parlé de ces sujets, c'était hyper intéressant. Et bon, ça fait depuis un moment évidemment qu'on n'a pas découvert ça ce matin non plus, mais c'était vraiment intéressant. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que malgré tout, fondamentalement, la manière dont marchent les modèles de langage en font des plutôt mauvais candidats pour atteindre des objectifs qui sont relativement lointains et qui demandent de la planification. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des hacks avec des agents qui essayent de transformer un plan en des sous-actions. Et,
des chaînes de pensée.
Voilà, des chaînes de pensée. On essaie de leur faire émettre des tokens pour augmenter leur capacité à faire des plans. Mais ce qu'expliquait Yann Lequin justement ce matin dans la conférence, c'est qu'en réalité, ce que font ces modèles, c'est plutôt adapter des plans et des objectifs qu'ils ont vus dans leur dataset à une situation donnée. Donc en fait, ils n'ont pas de réelle capacité à planifier. Ils ont plutôt des grandes capacités de compression de la donnée qui leur permet d'interpoler entre tous les objectifs et entre toutes les planifications qu'ils ont déjà vues, quelque chose qui colle à peu près.
En fait, ils peuvent planifier, mais par rapport à ce qu'ils ont déjà vu, mais ils vont pas être créatifs dans la planification.
C'est ça, ils planifient, mais par imitation. Tout comme un exemple qu'il donnait qui est intéressant, c'est que dans ton cours de maths, tu peux avoir un élève qui a vraiment compris les équations mathématiques et qui a une approche totalement nouvelle et qui peut résoudre à peu près n'importe quel problème, ou t'as l'intello qui a appris
par cœur
les 500 exercices et leurs réponses, et qui, dans les faits, s'il se retrouve confronté à des nouveaux problèmes, risque de bloquer.
C'est comme overfitter.
Exactement. Et donc, tout ça est très excitant dans les possibilités futures de Minecraft en tant que bac à sable et en tant que benchmark. Mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est que les LLM ne vont pas nous amener d'IA, d'intelligence générale, qui est capable d'atteindre des objectifs à haut niveau et long terme, comme ce dont on avait parlé. Il faudra pour ça d'autres structures de modèles dont nous a parlé Yann ce matin et dont vous pouvez aller voir l'interview dans cette vidéo.
Ouh.
Et là, c'est un pari sur l'avenir.
Est-ce qu'on aura...
Et là, l'avenir, le pari que je viens de faire...
ok, putain, c'est énorme.
Le pari que je viens de faire, c'est qu'on allait avoir Yann Lequin en interview.
Mais je me permets de faire l'analogie pour filer ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, dans le cas de Voyager, pour filer l'analogie dans le cas de Voyager et de Minecraft, là, actuellement, on lui donne des tâches à effectuer, mais c'est très itératif. C'est OK, j'ai ça dans mon environnement. On lui fait une proposition, il corrige, il fait une proposition. Mais en fait, ce qui serait intéressant et ce que fait un humain, c'est qu'on a une vision plus large sur l'arbre de technologie. Et donc, se dire, OK, pour pouvoir atteindre un objectif potentiellement plus lointain, pour pouvoir anticiper une action, j'ai besoin de faire ça. Et donc, c'est ça qui manque. Et ça, cette étape, en effet, c'est un problème que Voyager ne sait pas résoudre et que plein d'autres choses ne savent pas résoudre, sur lesquelles les chercheurs travaillent d'arrache-pied en ce moment. Et c'est un problème passionnant.
Par exemple, là... Toi, je te dis, va buter le dragon, qui est un peu le grand objectif de Minecraft. Tu sais le faire, Voyager est incapable de le faire. Il est incapable de le faire, pourquoi ? Parce que pour buter le dragon, il faut savoir que le dragon se situe dans l'aide, que ça va être assez galère, et donc que tu vas devoir trouver de quoi manger, trouver de quoi t'équiper, trouver des armes qui soient suffisamment puissantes, élaborer des techniques et des stratégies qui te permettent de, tirer à l'arc, mais ne pas te faire... atteindre par les projectiles du dragon, savoir qu'il faut aller envoyer des flèches là. En fait, il y a une quantité. Si tu déclines l'objectif tuer le dragon, ce que Tiffany fait de manière très intuitive, là sans même s'en rendre compte, c'est découper le problème en plein d'objectifs plus atteignables, comme OK, en fait, il me faut une épée en diamant, OK, il me faut du diamant, OK, je dois aller miner du diamant. Ça, on a vu qu'il savait le faire. Mais pareil, débloquer des skills, etc. Bref. Donc, comme on l'a dit, ça, c'est un problème intrinsèque au LLM. Et ce n'est pas une nouvelle version, malheureusement, de GPT ou de Mistral qui va régler le problème.
C'est de nouveaux types de modèles qui restent
exactement
à inventer, ou en tout cas qui sont...
Oui, il nous a parlé de planifier un trajet Paris-New York, et j'aime bien dans le chat. Est-ce qu'il vous a parlé de planifier un trajet Paris-New York ? Oui, effectivement. Yann Lequin.
En effet.
C'était sa démonstration.
Voilà, et non, mais c'est ma conclusion était. Était
on a quatre conclusions, comme ça, on pourra choisir.
Non, mais en plus, le pire, c'est qu'elle était prévue, mais je savais pas si je la faisais sur. Mais c'est très bien, tu l'as super bien expliqué. Mais t'as tout compris.
Tu m'as donné envie de voir des speedruns d'IA maintenant. Tu sais.
Ah ouais.
Bah, de rien.
Je pense en accélérer parce qu'à mon avis, ils sont pas si speed que ça l'est.
Ah, je sais pas. Ouais, je pense que ça va aller
peut-être
vite.
Ça va s'accélérer. À mon avis, en tout cas, ça a dû leur coûter cher en token. Ouais,
c'est clair. C'est clair.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.